Aujourd'hui, donc, nous accueillons Daniel Hervieux-Léger, qui est directeur à l'École des hautes études en sciences sociales du Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Elle est par ailleurs rédacteur en chef de la revue Archives de sciences sociales des religions. Après avoir travaillé sur les rapports entre engagement religieux et engagement politique chez les étudiants catholiques, elle a travaillé sur les processus de recomposition utopique des croyances religieuses dans les mouvements anti-institutionnels et communautaires des années 70. Cette perspective a conduit à une réévaluation critique de la notion de sécularisation, réarticulant l'analyse de la perte d'emprise des institutions religieuses dans toutes les sociétés modernes et celle des phénomènes contemporains de dissémination des croyances et de prolifération des communautés. La question des rapports entre modernité, mémoire et référence à la tradition est au centre des travaux engagés sur les formes de religiosité et sur les processus de construction et de transmission des identités religieuses. Ces réflexions sont reprises dans un livre paru au CERF en 1993, intitulé « La religion pour mémoire ». Son dernier ouvrage paru propose une analyse des formes contemporaines de la mobilité religieuse, mobilité des croyances et des pratiques, mobilité des identités, mobilité des quêtes de sens. Et ces réflexions sont reprises dans le livre « Le pèlerin converti », publié chez Flammarion en 1999. Daniel Hervieux-Léger est l'auteur de 14 livres et de plus de 150 articles et un ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'une secte ? La religion en miettes » est prévu et doit paraître en février 2001 chez Kalman Levy. Je vous remercie et je lui laisse la parole.
Depuis que les sciences sociales et la philosophie, mais les sciences sociales dans toute leur variété, s'intéressent sur la genèse, la nature et le devenir de notre modernité, la question de la religion a été véritablement une question récurrente et même une question fondatrice. Si l'on regarde par exemple les fondations de la sociologie, qui est la discipline que je pratique, c'est tout à fait intéressant de voir à quel point tous les pères fondateurs se sont intéressés à la question de la religion, quel que soit par ailleurs le type de théorie du social qu'ils développaient. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'en dépit de l'extraordinaire diversité de ces théories, hein, si l'on songe à Marx, à Durkheim, à Max Weber, à Simmel, bon, en dépit de l'extraordinaire diversité et des antagonismes entre ces théories du social, au fond, on s'aperçoit qu'avec des approches qui peuvent être très diverses, tous ces pères fondateurs ont convergé pour, admettre l'idée que la modernité de nos sociétés se va de pair avec le refoulement ou l'expulsion, en tout cas le refoulement, du phénomène religieux à la périphérie de ces sociétés. On peut même dire que toute une problématique du religieux dans la modernité s'est entièrement centrée sur les processus par lesquels la religion se trouvait être progressivement repoussée dans une sorte de secondarité dans toutes nos sociétés. Cette problématique de la sécularisation, envisagée comme la perte religieuse des sociétés modernes, est une thématique qui renvoie en fait à une approche de la modernité. Et comme je vais employer beaucoup ce terme, autant que je précise ce que je mets dessous, c'est une problématique de la modernité, au fond, qui articule trois traits principaux. Le premier trait, c'est l'envahissement de toutes les sociétés dites modernes par la rationalité instrumentale, c'est-à-dire par la science, la rationalité qui correspond au développement de la science et de la technique. Nos sociétés sont des sociétés qui se posent de façon centrale la question du comment fonctionne le monde, comment fonctionne la nature, comment fonctionne le psychisme humain. Et cette approche est entrée, bien entendu, en conflit, en conflagration avec les explications religieuses du monde, du cosmos et du sens de la vie humaine. Le second trait de cette modernité qui s'affirme de façon centrale, c'est l'affirmation de l'autonomie du sujet. Nos sociétés modernes sont des sociétés caractérisées par le prix que nous attachons à la capacités autonomes des individus dans ces sociétés, parce qu'ils sont des individus doués de raison, de définir eux-mêmes, de trouver eux-mêmes les normes et les valeurs qui guident leur propre vie, capables surtout, avec d'autres sujets autonomes, de débattre ensemble des orientations qu'ils souhaitent donner à la société dans laquelle ils vivent. Cette construction autonome du sens collectif est évidemment au principe de la démocratie et au principe donc de notre modernité politique. Le troisième registre de cette modernité, c'est le long parcours historique par lequel les différentes institutions, les différentes sphères de l'activité sociale se sont progressivement écartées les unes des autres, ou plus exactement, ont pris chacune leur autonomie les unes par rapport aux autres, en fonctionnant selon une règle du jeu qui leur est propre. À travers la longue durée, le droit et la morale se sont séparés, la morale et la religion, l'art et la religion, la politique, l'État surtout, et la religion, se sont progressivement séparés pour fonctionner selon des principes différents et qui correspondent à l'autonomie de chacun de ces secteurs. Si l'on reprend ces trois éléments, désenchantement du mystère du monde, perte du mystère du monde par les progrès des progrès de la science et de la technique, affirmation de l'autonomie de l'individu, spécialisation des institutions, nous avons là, au fond, un assez bon graphique de cette modernité confrontée à la religion. Je l'ai déjà dit, la manière dont la science et la technique s'emparent du monde en posant la question des fonctionnements, du comment et de la maîtrise de la nature, de l'ordre social et même du psychisme humain, ces avancées de la science et de la technique ont remis en question les cosmos sacrés, les explications religieuses du monde et les grandes descriptions à travers lesquelles les hommes des sociétés traditionnelles pouvaient rendre compte des événements qui les atteignaient et donner un sens à leur existence dans les difficultés de ce monde. Donc, première remise en question qui a beaucoup retenu l'attention des premiers penseurs de la modernité, ce conflit entre la science et la religion, d'où la religion sort apparemment vaincue, au moins dans ses dispositifs d'explication du monde. Mais le second registre, celui de l'autonomie, n'a pas moins mis en question l'emprise des grandes religions sur la vie sociale, tout simplement parce que la question même de l'autonomie, la capacité reconnue à l'individu et aux individus coopérant ensemble de déterminer le sens de leur existence individuelle et collective, remettait en question l'idée que les individus étaient soumis à une loi hétéronome. Et l'hétéronomie d'une loi religieuse se trouvait du même coup mise en question, critiquée par l'affirmation de la capacité autonome des individus de déterminer le sens de leur propre vie et du monde dans lequel ils vivent. Et le troisième registre, celui de la spécialisation des institutions, est en fait une sorte de conséquence de ce qui se passe aux deux autres registres que je viens d'évoquer. Le fait que les différentes sphères de l'activité sociale prennent leur autonomie et fonctionnent selon les règles qui leur sont propres ont pour conséquence aussi de faire de l'activité religieuse une activité spécialisée, une activité avec ses propres institutions, mais qui n'a plus la possibilité de gérer l'ensemble des autres secteurs, de légiférer sur l'ensemble de la vie sociale. Cette spécialisation du religieux signifie que les individus, bien entendu, peuvent continuer à croire et à se référer à telle ou telle tradition croyante, mais s'ils le font d'une certaine façon, c'est à compte privé, c'est un choix personnel, ce n'est plus une dimension qui détermine de façon centrale leurs identités sociales. Cette privatisation, en quelque sorte, amène le choix religieux à constituer dans nos sociétés une matière à option. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire, mais vous n'êtes pas tenu, pour être reconnu dans la société où nous vivons, de rendre public ce qui fait votre conviction intime. Cette vision très schématique, au fond, de la modernité, rationalisation, autonomie, spécialisation des institutions, a commandé très largement une vision de la nécessité, en quelque sorte, dans le processus de modernisation lui-même, de procéder à cette mise à la périphérie des phénomènes religieux. Non seulement la modernité tendait à exclure la religion, mais qui plus est, le processus de modernisation requérait cette élimination pour aboutir et se réaliser. Une vision donc d'une sécularisation inéluctable des sociétés modernes envisagée sur le mode de la perte. Les sciences sociales du religieux se sont très largement construites pour décliner les modalités différentes selon les pays et le rythme de ce processus d'éviction. Et on peut dire que d'une certaine façon, on peut lire l'histoire des sociétés européennes, l'histoire récente des sociétés européennes, à travers ce prisme, et on le fait couramment, jusque dans la manière, par exemple, d'envisager la façon dont fonctionnent les sociétés du point de vue de leur vie politique, du point de vue de leur vie morale, etc. Donc, une problématique de la perte qui a très largement gouverné les recherches, les savoirs, la constitution des savoirs sur les faits religieux dans la modernité. Bien entendu, selon les sociétés, on a eu des versions différentes de ce paradigme de la perte. On a vu, et on n'en sera pas étonné, que la France avait une conception extrêmement brutale et abrupte de ce processus de perte, vision bien entendu liée à l'histoire très conflictuelle, au choc frontal qui a opposé la République à l'Église romaine au siècle dernier notamment, et depuis la Révolution en fait. Cette vision abrupte du processus de la laïcisation des sociétés modernes a donné, dans le registre de la sociologie des faits religieux, une approche très, très rigide du processus d'éviction du religieux dans toutes les sociétés modernes. Dans des pays anglo-saxons, où, comme disait Tocqueville, la religion a conduit aux Lumières et ne se sont pas construites contre la religion, elles ont au contraire, les religions ont au contraire contribué à l'émergence d'une culture démocratique, comme c'est le cas aux États-Unis. Et bien, dans ce cas de figure, on a vu d'autres versions du paradigme de la perte, moins l'éviction brutale ordonnée en quelque sorte par le pouvoir politique, mais beaucoup plus une version soft, si j'ose dire, une version de la dissolution progressive des identités religieuses dans une sorte de religion civile très largement partagée, mais en tout cas, la thématique de la privatisation du sentiment religieux demeure dans ce cas de figure placé au centre. Donc, une sorte de consensus qui s'établit et qui va guider la manière de penser le religieux dans les sociétés modernes, en gros, jusqu'à la fin des années 60. Ce qui explique aussi cette sorte de certitude séculariste tranquille des sciences sociales, c'est qu'elle pouvait articuler commodément ce paradigme de la perte sur l'observation du paysage religieux. D'une certaine façon, l'observation directe de ce qui se passait du côté des grandes églises ou des grandes confessions apportait une confirmation paisible à ce que la problématique de la modernité avait mis en scène en termes de perte du religieux. Qu'est-ce qu'on observait, par exemple, et qu'est-ce qu'on observe toujours dans un pays comme la France? Eh bien, on observait le déclin régulier des pratiques religieuses, en l'occurrence massivement des pratiques catholiques, compte tenu de la configuration religieuse de notre pays, une perte régulière qui atteint effectivement aujourd'hui des chiffres extrêmement bas, moins autour de 10% et plutôt moins, beaucoup plus bas pour les catégories, pour les jeunes générations. Donc un processus progressif d'érosion des pratiques religieuses qu'on pouvait mettre en parallèle aussi avec l'effondrement, par exemple, du corps clérical. En France, depuis 1959, il meurt chaque année plus de prêtres qu'on en ordonne. On peut prendre le problème par tous les bouts. Il est clair qu'on est devant là un groupe social en voie d'extinction, même si on peut penser qu'à l'horizon de 2005 ou 2010, il y aura encore des prêtres catholiques en France. On sait que leur nombre ne permet plus d'entretenir et de reproduire cette civilisation paroissiale dans laquelle, pendant plusieurs siècles, s'est inscrit le catholicisme en France. C'est un exemple empirique, mais comme la sociologie des religions en France s'est très largement constituée comme sociologie du catholicisme, au moins à ses débuts, On peut comprendre aussi l'espèce de vérification qui pouvait s'opérer à travers ce type de mesure de la validité du paradigme de la perte religieuse des sociétés modernes. Ce qui ne manque pas d'intérêt, c'est que la sociologie des religions et de façon générale les sciences sociales du religieux pouvaient en même temps s'interroger, et elles l'ont fait, sur la manière dont ces idéaux de la modernité qui avaient progressivement produit cette éviction, cet effacement ou cette privatisation du religieux étaient eux-mêmes apparus et par quelle dynamique nous avons fini par penser nos représentations de ces idéaux comme ayant valeur universelle. En fait, ce qui ne manque pas d'intérêt dans cette affaire, c'est que quand on reconstitue la genèse de la modernité, on peut vérifier, et Max Weber, le premier, avait posé ce problème, que ce sont précisément, que cette éviction du religieux opère à partir d'un terrain qui lui-même a été modelé par la religion. La question que posait Max Weber était de savoir pourquoi ces idéaux, la démocratie, la liberté religieuse, la liberté de conscience, la science moderne, les formes de la bureaucratie d'État telle que nous la voyons se développer en Occident, et ajoutait-il, parce qu'il était allemand, la musique de Bach, pourquoi ces réalités de la modernité ont émergé au fond, autour, dans cette zone géographique relativement réduite que constitue la zone autour du bassin méditerranéen, plutôt que dans des civilisations aussi riches du point de vue de la connaissance, du point de vue des savoirs accumulés, du point de vue des prouesses techniques, comme l'Inde, comme la Chine ou comme le monde arabe. Pourquoi là, précisément, pourquoi dans cette zone-là, ces idéaux que nous considérons aujourd'hui comme des idéaux à partir desquels nos sociétés sont capables de se passer des béquilles de la religion, ont pu émerger. Et d'une certaine façon, on peut réfléchir le processus de cette émergence à partir des conditions dans lesquelles le religieux, et spécifiquement le judaïsme et le christianisme, ont précisément modelé nos cultures. Ce qui, au fond, est tout à fait fascinant dans ce processus d'émergence de l'autonomie, en lequel se joue pour une large part l'éviction de l'emprise des institutions religieuses sur nos sociétés, l'émergence de l'autonomie n'est pas, non seulement n'est pas sans rapport, mais entretient un lien, non pas exclusif, mais certainement très fort, avec une problématique du religieux qui trouve sa source dans le judaïsme, judaïsme qui n'a pas d'abord en propre, même si c'est une dimension très importante, de poser les bases d'un monothéisme, mais surtout de poser les bases d'une notion religieuse absolument inédite, mais qui va bouleverser la scène du religieux dans toute son extension, qui est la notion d'alliance. L'idée que Dieu passe alliance avec son peuple. Pour que la notion d'alliance ait un sens, il faut que le peuple ait la possibilité de refuser cette alliance. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas une relation contractuelle qui, au fond, implique que le peuple ne soit pas soumis à la puissance divine comme si elle pesait sur lui de façon fatale, mais qu'il ait la capacité de s'engager en fonction de l'offre de salut qui lui est faite. Cette problématique de l'alliance crée l'espace de l'autonomie historique du peuple qui, au fond, tient dans ses mains son destin spirituel. Et tout le récit biblique est le rappel permanent par les prophètes au peuple qui s'éloigne de cette alliance, des implications de cet abandon, mais précisément, ce qui est fondamental, c'est que le peuple a la possibilité, au fond, de si l'on peut dire, de négocier avec son Dieu, et dans cette approche radicalement neuve du rapport à la divinité, se joue déjà quelque chose de notre modernité. Dynamique de l'autonomie, que le christianisme va pousser dans toute sa logique dans deux directions. La direction d'une part de l'universalisation, puisque l'alliance n'est plus offerte au peuple seul, mais à l'humanité entière. La bonne nouvelle est pour tous les hommes. Et du même coup, cette alliance s'adresse à chaque individu, puisque l'universalisation du message implique que c'est l'individu qui répond à l'alliance en termes individuels, dans les termes individuels de la conversion. Dynamique d'universalisation et d'individualisation qui est absolument centrale dans la genèse et dans la constitution de notre modernité, dans tous les domaines. dans le domaine de la morale, aussi bien que dans le domaine du droit, aussi bien que dans le domaine de la politique, et qui trouve pour une part son origine dans ce modelage religieux de notre civilisation. Au fond, le paradoxe de la sécularisation, c'est d'une certaine façon que cette fusée religieuse, pas toute seule, car il y a d'autres sources de notre modernité, mais pour une part, a mis sur orbite le satellite modernité, et d'une certaine façon, il est arrivé au satellite ce qui arrive à tous les satellites, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur son orbite, il n'a plus besoin de la fusée porteuse, et la fusée porteuse est retombée, comme si, en quelque sorte, la modernité pouvait cesser de se référer à la source religieuse dans laquelle elle avait trouvé, pour une part, son origine. Ce schéma a donc étayé, confirmé par des enquêtes religieuses qui témoignaient en effet de ce que nos sociétés sont des sociétés de moins en moins gouvernées par la religion, cette vision donc d'une modernité a-religieuse, de sociétés, comme dit Marcel Gauchet, sorties de la religion, c'est-à-dire dans lesquelles la croyance n'est plus articulée, ne commande plus un ordre de la société, c'est là le grand tableau des rapports du religieux et de la modernité qui ne se trouve pas aujourd'hui radicalement remis en question, je vais y venir, mais qui se trouve aujourd'hui ébranlé par d'autres lectures de la modernité qu'il s'agit de combiner avec cette première lecture. Ce schéma va se déployer très largement jusque dans les années 60 et on va voir arriver au moment, dans les années 60, on va voir s'opérer à la fin des années 60 un tournant au sein des sciences sociales, l'émergence de nouvelles façons de considérer les rapports entre religion et modernité, sollicités en quelque sorte par ce qu'on découvre des transformations même du paysage religieux des sociétés modernes, ou plutôt du paysage des croyances. Comment est-ce que s'opère cette progressive remise en question du schéma de la perte, remise en question dont je dirais en même temps tout à l'heure les limites ? Plusieurs moments qu'il est intéressant de décliner pour voir un peu comment progressivement on a découvert que ces sociétés modernes, qui n'étaient plus des sociétés organisées par la religion, n'étaient pas à beaucoup près des sociétés devenues incroyantes ou indifférentes aux questions métaphysiques ou aux questions du sens. Le grand tournant de ces années 70, c'est précisément la disjonction entre la question de l'emprise institutionnelle du religieux, dont on ne cesse pas de mesurer la décroissance d'un côté, et la découverte de l'ampleur des phénomènes de croyance dans nos sociétés. Premier registre dans lequel se découvre cette importance des phénomènes de croyance dans nos sociétés, eh bien, le constat que dans des sphères d'activité sociale qui ne sont pas répertoriées comme religieuses, la croyance n'est pas absente. Qui plus est, certaines de ces sphères peuvent même, dans certaines conditions historiques, s'organiser comme des religions séculières. Raymond Aron, à une époque où il était peu séant de poser le problème dans ces termes, a le premier employé la formule « religion séculière » pour parler du communisme, soulignant par là que le communisme était d'abord, en un sens, fait de croyance en une eschatologie séculière qui reprenait beaucoup des thématiques de l'eschatologie chrétienne, la vision d'un accomplissement de l'histoire, la vision d'une société d'où toute souffrance et toute larme auraient été effacées, et l'idée aussi d'un sujet messianique de l'histoire à travers le sacrifice duquel l'accomplissement se réalise. Cette problématique religieuse de l'accomplissement de l'histoire permettait à Raymond Aron de parler à propos du communisme de façon non pas métaphorique, mais tout à fait sérieuse, de religion séculière. Mais si l'on élargit la perspective au-delà de cet exemple qui a ensuite été beaucoup repris et décliné, le fait important est la découverte de l'ampleur au sein même d'activités qui apparaissent totalement coupées de toute référence normative aux religieux, de croyances, de pratiques rituelles, de phénomènes d'ascèse, voire même d'expériences d'extase. Et quand j'évoque ces éléments, je fais allusion à l'une des définitions, parce qu'il en utilise plusieurs, que Weber donne de la religion. croyances, rituels, ascèses, expériences d'extase, dans bien d'autres domaines que le religieux tel qu'on le repère à travers les frontières des institutions, on observe la présence conjuguée de ces différentes dimensions. Dans le domaine de l'art, par exemple, dans le domaine de la politique à coup sûr, dans le domaine de la science elle-même, qui, dans sa façon de se représenter sa toute-puissance et sa capacité de faire reculer définitivement et ultimement les frontières des obscurités humaines, portait elle aussi, dans ses variantes scientistes ou positivistes, quelque chose d'un système religieux de croyance. Donc, premier moment, si vous voulez, dans ces moments typiques de la reconsidération de la situation croyante de nos sociétés, l'accent mis sur cette dissémination, cette diffusion du croire en dehors de la sphère répertoriée, reconnue socialement comme religieuse. Deuxième registre, la découverte que, et là encore, le tournant, la fin des années 60 et le tournant des années 70 est très important chronologiquement, la découverte que des croyances qu'on avait considérées comme typiquement associées, par exemple, à un monde rural en voie de disparition, eh bien, ces croyances pouvaient parfaitement, dans nos sociétés modernes, connaître d'étonnantes reviviscences qui ne sont pas des retours à des formes religieuses du passé, mais plutôt, à partir de ce fond, innovation et création de nouveaux dispositifs de croyance. C'est en particulier à l'analyse de ce genre de phénomène que se sont attachés toute une série de travaux portant sur ce qu'on a appelé assez malencontreusement la religion populaire. On s'est intéressé, et la tradition anthropologique, ethnologique, a toujours maintenu un intérêt pour ces phénomènes, on s'est intéressé longtemps aux formes de la religion dite populaire, qu'on aurait mieux fait de nommer religion extra-institutionnelle ou para-institutionnelle ou semi-institutionnalisée, ces formes religieuses, pèlerinage, dévotion à des saints guérisseurs, pratique de guérison en général, intérêt pour des dévotions locales et dévotions domestiques, etc., on avait considéré qu'il fallait en effet étudier ces phénomènes un peu comme les paléographes étudient des squelettes ou des traces de sociétés anciennes, parce qu'on les associait à une société rurale en voie de disparition et qu'on pensait qu'on était là devant des formes résiduelles, des buts témoins d'un monde religieux précisément aujourd'hui débordé par l'avancée de la modernisation. C'était d'ailleurs bien mal connaître l'état du monde rural que de penser qu'il était moins atteint que d'autres par les logiques de la modernisation. Le fait est que ces études ont été bousculées brutalement, cette approche a été bousculée brutalement, par la découverte, par exemple, que dans des sociétés comme les nôtres, où la médecine biologique est largement dominante, où la connaissance des processus anatomiques, physiologiques et autres est très développée, eh bien néanmoins, autour du thème de la guérison, pouvaient surgir des croyances et des pratiques tout à fait nouvelles, en tout cas qui établissaient un lien paradoxal entre les sociétés de la tradition et les sociétés les plus avancées, ces pratiques de guérison par exemple, ou ces recherches de guérison qui passaient en dehors des voies classiques offertes par la médecine, eh bien ces voies de guérison en appelant à une guérison totale de l'humain que précisément la médecine technicisée et fonctionnalisée apparaît incapable de fournir. Donc des paradoxes, si vous voulez, où on découvre que dans les sociétés en principe les plus sécularisées, peuvent ressurgir des types de croyances en affinité avec le religieux par des biais qui sont ceux, je dirais, d'une protestation interne à la modernité. Ce deuxième volet a suscité aussi toutes sortes d'études sur la renaissance de pratiques dont, pour de bonnes raisons, on pouvait penser, dans les années 60, dans les Golden 60s, la modernisation à tout va, on pouvait penser qu'elles étaient devenues totalement désuètes. Par exemple, les pratiques de pèlerinage, dont on imaginait qu'elles appartenaient vraiment à un monde révolu. Aujourd'hui, comme vous le savez, les pèlerinages se portent le mieux du monde. Vous avez des mètres linéaires de livres sur mon expérience à Compostelle, mon grand trip à Częstochowa ou tout ce que vous voulez, dans toutes les librairies où, de toute façon, la littérature spirituelle s'affiche très largement. Il y avait donc là un paradoxe qui méritait d'être souligné. Troisième moment, celui de la redécouverte, alors là, directement suscitée par l'observation de la scène politique, du fait que ce religieux, ou ces croyances, dont on avait dit qu'elles étaient nécessairement privées, reléguées dans la sphère privée, et insusceptibles aujourd'hui de commander des comportements politiques ou des choix sociaux, on s'aperçoit, toujours dans ce même tournant des années 70, eh bien que le religieux qu'on avait dit évincé de la scène publique, y fait une rentrée remarquée. Une rentrée remarquée dont on va d'abord minimiser l'importance en notant que ça se passe dans des pays qui ont été soit confrontés à une pseudo-modernité, par exemple les pays de l'Empire soviétique, ex-soviétique, dont on peut dire qu'ils ont été confrontés à une pseudo-modernité dans la mesure où le tout politique imposé dans ces sociétés ne correspondait en rien à la logique de la spécialisation institutionnelle qui est celle des sociétés authentiquement modernes, donc une pseudo-modernité liée justement à la religion du communisme. On pouvait aussi, si j'ose dire, dégager en touche, s'agissant de pays soumis à des dictatures où la religion et l'importance du religieux sur la scène publique pouvaient être rapportées à la nécessité de trouver un vecteur d'expression d'une protestation sociale qui ne disposait pas d'autres moyens pour se dire, comme par exemple l'importance des mouvements religieux dans la chute des dictatures en Amérique latine. Ou bien encore, on pouvait considérer que ça nous concernait très peu, puisqu'il s'agissait là encore de processus de modernisation brutaux qui avaient suscité leur choc en retour, comme par exemple en Iran, où finalement le retour du voile pour les femmes iraniennes répondait en quelque sorte comme phénomène réactionnel collectif de très grande ampleur à la brutalité avec laquelle, sous la dynastie Pahlavi, on avait pourchassé les femmes dans les rues de Téhéran pour leur arracher leur voile. Autrement dit, des chocs en retour de la modernité, tout ceci pouvait, pour nos sociétés occidentales démocratiques, être tenu aux marges. Jusqu'au moment où on s'aperçoit que, dans une société qu'il est quand même très difficile de considérer comme aux marges de la modernité, c'est-à-dire par exemple aux États-Unis, on assiste dans les années 70-80, à une formidable remontée des thématiques religieuses sur la scène publique, y compris de la part de groupes sociaux ou de groupes religieux qui jusque-là avaient comme principal objectif de se tenir à l'écart de la scène politique. Je pense à tous les courants évangéliques protestants qui, pendant 40 ans, ne s'étaient investis dans l'action politique directe que pour des causes qu'on peut considérer comme relativement périphériques, du type l'enseignement du créationnisme à l'école plutôt que de la théorie darwinienne, ou bien l'interdiction de la vente d'alcool et de spiritueux dans les supermarchés le dimanche dans les villes américaines. Ce n'étaient pas des enjeux décisifs, mais quand les mêmes qui s'étaient tenus relativement à l'écart de la scène publique vont y faire une entrée telle qu'ils vont assurer le basculement politique de région entière et assurer en particulier la seconde élection de Reagan, on se rend compte qu'il n'est plus possible, même en tenant compte du fait que la sécularisation à l'américaine n'a jamais pris la forme de cette éviction du religieux de la scène publique que nous avons cultivée en France. Même dans ce cas de figure, la question se posait de réévaluer la capacité de mobilisation des thématiques religieuses dans des sociétés supposées sorties de la religion. Mais le quatrième moment, le plus important sans aucun doute, du point de vue du brouillage qu'il a opéré dans les catégories classiques des sciences sociales pour penser le religieux et le moderne, c'est la découverte, toujours dans cette même période, de ce qu'on pourrait appeler l'explosion de la nouvelle culture spirituelle. Le fait que dans les sociétés les plus avancées, les plus bénéficiaires de la modernité, les plus acquises aux idéaux de cette modernité, on voyait surgir, non pas sur leurs marges, non pas dans des couches sociales attardées de la modernité, mais parmi leurs intellectuels, sur les campus universitaires, parmi les couches éduquées, les couches sociales éduquées moyennes et moyennes supérieures, on voyait émerger de nouveaux types d'expressions spirituelles pouvant donner lieu éventuellement à des formes nouvelles de communalisation, nouveaux groupes, nouveaux types de réseaux, qui ont donné lieu à toutes sortes d'analyses, qui ont même obsédé les sociologues des religions depuis une vingtaine d'années, cette cartographie de ces nouvelles attentes, de ces nouvelles formes d'expression, qu'elles prennent la forme de ces syncrétismes exubérants qui puisent aux ressources des spiritualités orientales, de la psychologie vulgarisée et du vieux fond chrétien réhabilité pour donner lieu à de nouveaux brassages et à de nouvelles combinaisons, ou bien que ce soit sous la forme conversionniste de groupes qui revendiquent la soudaineté, la radicalité d'une expérience spirituelle qui conduit les individus à changer de vie, phénomène qui traverse à la fois les grandes, qui travaille à la fois au-dedans et au-dehors des grandes religions, et au-dedans même avec, dans ces mêmes années, la montée en puissance, par exemple, en terrain protestant, des formes émotionnelles du pentecôtisme, ou bien en terrain catholique, la montée des mouvements dits charismatiques. On a là donc, à travers toutes ces entrées qui jouent, qui coïncident un peu chronologiquement, mais qui correspondent à des moments, à des registres différents d'appréhension des phénomènes de croyance dans les sociétés modernes, on se trouve devant la nécessité de revenir sur la problématique classique de la sécularisation. On se trouve devant l'impératif intellectuel de se demander ce que nous avions vraiment regardé, ce que nous avions vraiment vu. Cette redécouverte de l'ampleur des phénomènes de croyance dans les sociétés modernes, cette insistance qui va alors devenir obsédante sur la prise en compte du caractère éminemment croyant, voire même crédule, des sociétés les plus gouvernées par la science, la technique, l'autonomie du sujet, les règles de la démocratie et la spécialisation des institutions, ceci va conduire donc à se poser la question de la validité de la thèse de la sécularisation comme perte. Et comme il arrive très souvent dans ce genre de choses, la remise en question a quelquefois signifié, pour un certain nombre de chercheurs, la torsion du bâton dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a vu des chercheurs en sciences sociales qui avaient été les principaux théoriciens de la perte afficher au milieu des années 70 une position tout inverse en affirmant qu'on s'était complètement fichu dedans, qu'il fallait revoir nos outils de A à Z et que les sociétés modernes sont des sociétés de part en part croyantes. En fait, il faut bien voir comment s'articulent les deux registres. Reconnaître l'importance de la croyance dans les sociétés modernes ne signifie aucunement qu'on invalide le constat historique qui est celui auquel s'adossent les théories de la sécularisation, celui selon lequel nos sociétés modernes ne sont plus des sociétés gouvernées par la croyance religieuse, ne sont plus des sociétés dont l'ordre social, dont l'ordre juridique, dont l'ordre politique découle directement d'une norme religieusement fondée. Nous sommes, oui, et le constat ne peut en aucun cas être remis en question, nous sommes des sociétés sorties de la religion, au sens où les codes de sens religieux ne gouvernent plus notre vie collective. Mais dans le même temps, cette disqualification des codes de sens religieux en tant que norme de notre vie individuelle et collective ne signifie en aucune manière que la croyance comme telle se trouve évacuée. Ce qu'on avait observé longuement en croyant mesurer la perte de la croyance dans les sociétés modernes, c'était la dérégulation institutionnelle du croire. C'était la manière dont les croyances dans ces sociétés échappent de plus en plus aux dispositifs d'encadrement, de mise en conformité assurés par les institutions des grandes traditions religieuses. Ce qui est aujourd'hui l'objet d'une sociologie, par exemple, des rapports entre la religion et la modernité, c'est l'étude des effets de cette dérégulation institutionnelle et ce qui est son envers, c'est-à-dire le processus d'individualisation, de subjectivisation du croire, qui déplace en quelque sorte la question. Le problème est moins celui de l'adhésion des fidèles à un croire normé et fixé par des institutions, il est celui des processus par lesquels les individus, pour faire face à une question qui reste aussi présente dans les sociétés modernes que dans les sociétés traditionnelles, qui est celle du sens de leur vie et de leur mort, ces individus sont amenés à produire eux-mêmes les dispositifs de signification, les petits récits croyants à partir desquels ils organisent leur vie personnelle. Dire cela ne signifie pas que les grandes traditions religieuses sont invalidées, loin de là. D'abord, elles continuent pour partie de fonctionner pour un certain nombre, de plus en plus réduit, certes, mais pour un certain nombre d'individus. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir comment ces grandes traditions religieuses vont fonctionner dans ce nouveau contexte d'appropriation subjective du croire, de construction subjective des systèmes de signification, vont fonctionner comme de formidables réserves symboliques, de formidables boîtes à outils symboliques dans lesquelles les individus vont puiser pour construire leur petit système du sens. Alors, bon, vous me direz, ils ne le font pas d'une façon purement aléatoire, comme quand on, si tant est d'ailleurs que ce soit vraiment aléatoire, la pratique de la consommation au supermarché. Elle dépend, elle aussi, d'un certain nombre de conditions sociales. Mais s'agissant de la construction des petits systèmes croyants, la façon dont les individus bricolent, c'est le mot consacré, bricolent leur petit système du croire, dépend bien entendu des dispositions sociales qui sont les leurs, dépend des conditions d'accès qu'ils ont aux ressources culturelles diverses et variées qui leur sont offertes. Elles dépendent de leurs intérêts, de leurs aspirations, de leurs expériences, des rencontres qu'ils font. Il y a donc une possibilité, fort intéressante d'ailleurs, d'étudier les cartographies sociales de ces bricolages, mais qui sont devenues aujourd'hui la matière première d'une sociologie du croire qui déborde très largement la sociologie classique de la perte religieuse. Alors, la question quand même, qui surgit évidemment, c'est mais dans cette nébuleuse des petites fabrications croyantes de plus en plus individualisées, dans lesquelles les grands codages opérés par les traditions jouent de moins en moins, d'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'on n'a pas bricolé à tous les siècles? Oui, réponse oui. Oui, effectivement, c'est une fiction, c'est une vue de l'esprit que d'opposer ces jeux du bricolage individuel caractéristiques des sociétés contemporaines aux sociétés unifiées religieusement du passé qui sont très largement une vue de l'esprit. Il est vraisemblable qu'on bricolait tout autant ces croyances au XIIe, au XIVe, au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Et donc il faut regarder avec précaution cette espèce d'opposition un peu trop simple entre les mondes religieux unifiés de la tradition et l'explosion individualiste du croire dans les sociétés modernes. Sauf que la différence majeure, c'est qu'au XIVe siècle, oui, bien entendu, les gens bricolaient, ils en prenaient, ils en laissaient avec ce que l'Église leur disait de croire. Sauf qu'il était relativement peu recommandé de revendiquer le bricolage. Car ça pouvait se terminer très mal, en l'occurrence sur un boucher. Autrement dit, la nouveauté de la situation, ce n'est pas le bricolage en tant que tel, c'est la revendication du bricolage au nom même de l'authenticité d'une quête spirituelle. Ce qui est curieux n'est pas la composition souvent très inédite des différentes ressources disponibles aujourd'hui, et comme nous sommes dans un monde de la communication, ces ressources sont de plus en plus élargies. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les individus, même des croyants profondément insérés dans une tradition religieuse, même des fidèles qui tiennent fortement à leur institution, revendiquent de faire passer au premier plan l'authenticité de leur expérience plutôt que le degré de leur conformité avec des vérités à croire. Et ceci vaut même pour les institutions qui, par exemple, ont abandonné depuis un certain temps déjà l'idée que la catéchisation des enfants passait par leur apprentissage par cœur d'un certain nombre de réponses permettant de contrôler leur bonne assimilation du dogme. Aujourd'hui, catéchiser les enfants, aussi bien dans les traditions catholiques que protestantes, ça consiste, dans l'esprit même de ceux qui se chargent de cette mission, à les éveiller à une véritable expérience spirituelle, beaucoup plus qu'à leur ingurgiter des vérités à croire. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le positionnement de l'individu dans ce dispositif du croire, plus que la nouveauté en tant que telle du bricolage ou de l'art d'en prendre et d'en laisser avec les vérités formelles. Deuxième question qui surgit aussitôt, c'est de savoir ce qui, dans cette nébuleuse des croyances individuellement bricolées, relève ou pas de la religion. Va-t-on en bloc verser au pot de la religiosité moderne toutes les formes de bricolage des petits récits croyants? Il y a là un débat théorique dans lequel je n'entre pas, car à mon avis, il a fait perdre beaucoup de temps aux sociologues des religions, mais enfin, il les a bien occupés pendant 25 ans, de savoir comment définir la religion pour savoir ce qui, dans ce magma des croyances contemporaines, pouvait ou non être considéré comme religieux. Le point de vue que je retiens est le suivant. Ce qui caractérise en propre le croire religieux, ce n'est pas des contenus particuliers du croire, on peut croire en Dieu de façon non religieuse, ce ne sont pas non plus des fonctions particulières du croire, car à ce train-là, on fait rentrer dans les rituels religieux les matchs de foot ou les concerts de rock comme étant la religiosité des sociétés contemporaines, et comme vous le savez, certains tiennent cette position. Mais du même coup, alors, l'extensivité de la définition du religieux est telle qu'on ne sait plus de quoi on parle. Ce qui me paraît caractéristique du religieux, de l'organisation religieuse du croire, c'est le moment où ce croyant, qui se fabrique son petit dispositif de sens, revendique pour légitimer de croire ce qu'il croit, la manière dont sa propre construction l'inscrit dans une tradition, dans une lignée croyante. Au fond, dire « je crois en Dieu » ne vous garantit pas du tout que vous êtes en présence d'un croyant religieux. Mais quand ce croyant vous dit « je crois en Dieu comme d'autres avant moi ont cru en ce Dieu », alors là, oui, il s'agit bien d'un croyant religieux. Comme nos pères ont cru, nous aussi nous croyons, voilà au fond ce qui, c'est un point de vue qui ne définit pas l'essence de la religion, mais ce qui permet le plus efficacement, à mon sens, de repérer dans l'extraordinaire distribution, dissémination des croyances contemporaines, les croyances qui s'organisent sur un mode religieux. Mais là encore, la question rebondit, car ce qui apparaît clairement, c'est qu'aujourd'hui, les identités religieuses, c'est-à-dire la façon dont des individus s'inscrivent dans une lignée croyante, eh bien, ces identités s'héritent de moins en moins, de génération en génération, de façon linéaire, et elles sont de plus en plus renvoyées au choix de l'individu qui revendique de choisir la lignée dans laquelle il se reconnaît. Il est très intéressant, par exemple, de penser que dans une enquête très récente, faite auprès d'un échantillon représentatif de parents français, où il leur était demandé « quelles sont les choses que vous tenez absolument à transmettre à vos enfants ?» Alors, il y avait des valeurs diverses, le goût de la liberté, le goût du travail bien fait, le sens de la famille, toutes sortes de valeurs, et puis il y avait ma foi religieuse. 4% seulement des parents ont déclaré que la foi religieuse était la première des choses qu'ils voulaient transmettre à leurs enfants. Ce chiffre est très intéressant car il ne veut pas dire du tout que 96% des parents n'ont aucun intérêt pour les questions du sens et les questions de la foi elle-même. Ça veut dire tout simplement que quand on les interroge plus précisément sur cette espèce de désengagement par rapport à la transmission, ils disent « il choisira lui-même, c'est son affaire ». L'idée au fond que le croire et l'inscription dans une lignée croyante est le choix de l'individu qui doit s'engager personnellement, est aujourd'hui une thématique qui est partagée, y compris par des individus très profondément enracinés dans leurs croyances personnelles et qui, en fait, souhaitent fortement que leur progéniture les suive dans ses traces, mais ne se considèrent plus comme fondés à les faire hériter directement en dehors d'un processus d'éducation à ce choix personnel. Ce qui constitue une véritable mutation du point de vue de l'analyse, y compris du fonctionnement des grandes traditions religieuses, qui aujourd'hui sont obligées de faire avec cette nouvelle approche, en quelque sorte, de la croyance. Les identités ne s'endossent plus comme des habits, ne se revêtent plus comme des patrimoines qu'on trouverait tout armé dans son berceau avec la culture, les valeurs, la morale, etc., les identités religieuses se constituent de façon de plus en plus individualisée au travers de trajectoires d'identification elles-mêmes extraordinairement singulières. Et la question, évidemment, qu'on va poser à partir de là, et évidemment, elle concerne très directement le sociologue ou la sociologue que je suis, c'est la question de savoir si à partir de ces logiques d'individualisation du croire et d'individualisation de la constitution des identités religieuses, il est encore imaginable qu'une sociabilité religieuse se constitue. Est-il imaginable que des individus qui sont aujourd'hui en charge de produire leur système de signification et qui choisissent la lignée croyante à laquelle ils souhaitent s'agréger en disant « je me sens catholique » ou « je me sens protestant » ou « j'ai le feeling pour le bouddhisme », qui est un phénomène très frappant aujourd'hui dans les modalités de reconnaissance de l'attraction qu'on éprouve pour telle ou telle tradition. Bref, ces individus qui se dotent eux-mêmes d'un rapport qu'ils choisissent à une lignée croyante, sont-ils en mesure, d'une manière ou d'une autre, de créer entre eux des formes de communalisation ? Et un certain nombre d'approches mettent à ce point l'accent sur les logiques de l'individualisation que l'idée même d'une communalisation religieuse devient non pertinente. On peut imaginer en effet que la religion se dissolve non plus par éviction de la scène sociale, non plus par réduction de la croyance, mais je dirais par la submersion des croyances individuelles incapables de se rapporter les unes aux autres dans un lien collectif quelconque. En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que cela et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Ce qui est souvent oublié dans cette approche de la décomposition sans recomposition des croyances contemporaines, ce qui est souvent oublié, c'est le problème que rencontrent tous les individus les plus individualisés sur le plan des croyances, qui est celui de la validation des petits systèmes de signification dont ils se sont dotés. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'un système de signification fonctionne, pour qu'il puisse effectivement donner du sens à l'existence de l'individu qui s'en réclame, il est pratiquement indispensable qu'à un moment donné, il puisse confronter à une altérité ces constructions du sens. Il faut qu'il puisse rencontrer des gens qui lui disent « ce qui fait sens pour toi, fait sens aussi pour moi ». Si jamais personne ne vous dit tes valeurs, les significations que tu mets en avant, elles me parlent, elles me disent quelque chose à moi, il y a de bonnes chances pour que ça ne dise pas grand-chose longtemps. Et cet impératif de la validation explique que, alors même que les grands dispositifs institutionnels de la validation se trouvent pris en porte-à-faux pendant des siècles, la manière dont cette validation des expériences individuelles était assurée, c'était la mise en conformité que réalisaient les institutions religieuses, la manière dont elles prenaient en main, en les catéchisant, en les inscrivant dans des pratiques obligatoires, les fidèles, le mot était tout à fait éclairant, des fidèles qui se trouvaient du même coup validés dans leur choix croyant. La crise, non pas la disparition, car ça fonctionne encore pour une part, mais l'affaissement relatif de ces dispositifs institutionnels de la validation du croire ne signifie pas pour autant que les gens atomisent purement et simplement, dans une façon complètement éclatée, leur petit bricolage individuel. Ce qui est intéressant justement, du point de vue sociologique, c'est d'arriver à comprendre comment cette situation d'extrême individualisation du croire produit en même temps de nouvelles formes d'agrégation qui permettent d'assurer la validation des significations individuellement produites. Deux formes principales, et j'en termine. Une forme très largement envahissante, qui correspond bien à notre culture moderne de l'individu. Ce que j'appellerais la validation mutuelle du croire. La manière dont, au-dedans et au-dehors des grandes traditions religieuses d'ailleurs, aussi bien du côté des nouveaux mouvements religieux que du côté des grandes églises, par exemple, on voit fonctionner de plus en plus des réseaux affinitaires au sein desquels les individus réclament de pouvoir échanger leurs expériences, de pouvoir se communiquer leur trajectoire, de pouvoir s'expliquer mutuellement ce qui les anime. Bref, des réseaux dans lesquels la confirmation opère par relations intersubjectives dans des dispositifs relationnels que les églises, d'ailleurs, par exemple, s'emploient à stabiliser en leur sein. Tout ce qu'on appelle phénomène de communauté nouvelle et autres peut très largement s'expliquer à travers des logiques de stabilisation interne à l'institution de ces formes affinitaires en réseau qui viennent en quelque sorte court-circuiter les formes classiques de la validation institutionnelle, celles qui s'assuraient dans les paroisses, par exemple, où la prédication, l'encadrement des fidèles se faisait à travers tout un dispositif régi par un clergé. On s'aperçoit aujourd'hui que les formes de la sociabilité passent très largement par l'envahissement de ces formes d'échange d'expériences dans lesquelles se jouent de nouvelles manières de créer du lien social religieux. Mais cette forme soft de la vérité échangée, elle requiert des compétences sociales, elle requiert des ressources symboliques, elle requiert des capacités relationnelles, elle requiert beaucoup de choses. Elle est même d'une certaine façon éreintante pour les individus, comme est éreintante la nécessité d'être soi qui, sur tous les terrains de notre vie de sujet moderne, s'impose à nous aujourd'hui. Elle est éreintante au point qu'un certain nombre d'individus réclament de pouvoir s'adosser, s'appuyer sur des systèmes de sens clés en main, réclament de pouvoir non pas échanger des expériences de vérité subjectivement construites, mais de pouvoir partager des certitudes, des socles de certitudes entre un petit nombre de croyants purs ou régénérés. Et bizarrement, au moment même où la validation institutionnelle s'affaisse, où se développent ces jeux conformes à notre culture de l'individu, de la validation mutuelle, on voit surgir, comme son contraire, mais dans une logique tout à fait une logique de correspondance tout à fait directe, des petits modèles de la validation communautaire, des jeux de l'entre-soi rigides et fixés autour de codes de certitudes clés en main. Et ce dispositif, au fond, explique aussi pourquoi nos sociétés extraordinairement individualistes où les jeux de la croyance subjective s'affichent sont aussi des sociétés où fleurissent des petits groupes que nous avons pris l'habitude, plus ou moins malencontreuse d'ailleurs, de désigner comme sectes. Ce paysage religieux où s'effacent les grands codes institutionnels et où se polarise d'un côté un religieux soft, un religieux qui fonctionne sur la vérité échangée et qui s'établit dans une tension avec des lieux de la du religieux hard, de la vérité strictement partagée entre croyants régénérés, c'est cette tension qui aujourd'hui me paraît la plus capable de décrire le rapport des sociétés modernes à la religion. Je vous remercie.
Oui, je vous remercie beaucoup, madame, de cet exposé fort dynamique et convaincant. Alors, comme vous avez cité Marcel Gauchet, je me souviens d'une de ses formulations à l'égard du christianisme, à l'effet que le christianisme serait la religion de la sortie de la religion. Alors, j'aimerais vous entendre sur... Bon, cette formulation, bien sûr, est... à la fois, elle nous paraît évidente, n'est-ce pas, même après ce que vous venez de dire. Et puis, c'est quand même paradoxal. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous considérez comme... Enfin, quel était l'œuf, si je puis dire, qui a pu, au sein du christianisme, produire cette sécularisation
interne, en quelque sorte.
Voilà.
D'une certaine façon, j'ai un peu abordé cette question, je ne l'ai pas suffisamment détaillée parce que je n'avais pas beaucoup de temps, en évoquant la manière dont le christianisme a problématisé l'autonomie du sujet croyant. C'est, je crois, quel que soit par ailleurs tout ce qu'on peut dire de la façon dont les églises ont assuré leur emprise sur la conscience des fidèles, il reste que le christianisme a jeté les bases au plan de l'individu et non plus dans les termes de l'alliance que j'évoquais pour le judaïsme entre le peuple et son Dieu, a jeté les bases d'une autonomie. La logique de la conversion offerte à l'individu, qui est au principe même de l'organisation du croire chrétien, qui est de le retournement, le changement du cœur, et « suis-moi ». Bon, cette problématique introduit du même coup un privilège particulier accordé à l'engagement de la conscience du sujet. Ce privilège qui, alors, ensuite, a été progressivement décliné dans l'histoire, avec une étape majeure, bien entendu, qui est celle de la réforme, de ce point de vue, c'est-à-dire le moment où, par rapport à la représentation des médiations institutionnelles du salut, s'affirme de façon radicale cette solitude, en quelque sorte, du croyant face à son Dieu, qui reçoit un salut et qui accepte la démarche même de la conversion. cette logique de l'individualisation est, je dirais, portée par le christianisme dès l'origine. Il n'a pas été décliné à toutes les époques de l'histoire de façon complète. On peut dire vraiment que, de ce point de vue, l'étape de la réforme est une étape absolument centrale. Et dans la réforme, dans la construction, au fond, d'un individualisme religieux, va se préparer la construction de l'individualisme moderne, au moins pour une part. Cette approche qui, au fond, passe par ce qu'on pourrait appeler une éthicisation de la religion, propre au christianisme. Le fait que le primat est donné à l'éthique chrétienne, à l'intériorisation de la loi, plus qu'à la reproduction des gestes, plus qu'à l'observance des rituels, le primat donné à l'intériorisation de la norme religieuse par le sujet lui-même va permettre cette construction d'une figure de l'individu croyant à partir duquel l'Occident va décliner la figure de l'individu autonome.
Vous y voyez une rupture avec le judaïsme alors que la Bible donne quand même des exemples.
La rupture avec le judaïsme se fait sur le terrain de l'individualisation du processus. Ce qui est intéressant, c'est que la problématique de la conversion qui va être au cœur de cette individualisation chrétienne est en quelque sorte présente dans la problématique de l'alliance. Le simple fait, au fond, de constituer Dieu en partenaire de l'homme dans une alliance est le lieu où s'élabore l'autonomie. Je dirais que les Juifs ont inventé l'histoire et le christianisme a inventé l'individu gérant lui-même le processus de sa conversion. Alors, ensuite, et Marcel Gauchet le fait admirablement bien, il y a toute l'histoire de la construction politique de cet individu qui va, bien entendu, se jouer massivement dans le tournant du XVIIIe siècle.
Oui.
Oui, bonjour.
Là-haut.
Merci pour cet exposé, tout d'abord. Je voulais simplement, au travers de ce que vous venez de dire, faire quelques constats et peut-être avoir votre opinion là-dessus, sur ces constats.
Je vous demande juste d'être rapide.
Je vais être très bref. Vous citez tout d'abord 4% de personnes qui ne souhaitent pas transmettre la foi religieuse, qui souhaitent transmettre la foi religieuse comme une priorité. Mm-hmm. N'est-il pas paradoxal de voir que c'est plutôt 96% qui vont baptiser leurs enfants? Donc ça, c'est une... Enfin, j'exagère, je ne connais pas le chiffre, mais c'est certainement pas 4%.
Non, certainement pas.
C'est un paradoxe, mais comment vous l'expliquez? Et deuxième point, vous avez cité le désengagement de la religion dans, tous les systèmes, les références sociales, politiques, ou un certain nombre d'éléments. J'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière aujourd'hui. Il y a 20 ans, je ne voyais pas Michel Drucker dire qu'il était juif ou chrétien ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on voit Patrick Bruel affirmer sa religion juive à la télévision. Donc, c'est un exemple qui, moi, me frappe parce qu'il est assez répété en ce moment. Il y a une affirmation religieuse très claire. De la même manière, on peut voir le vice-président du candidat Al Gore, juif, s'afficher justement pour, quelque part, affirmer la participation de l'État israélien ou du lobby juif à la campagne Al Gore. Comment est-ce que vous mesurez les paradoxes et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on n'est pas vers un retour en arrière?
Je crois que de toute façon, il est toujours très redoutable d'interpréter les processus qu'on a analysés au présent en termes de retour en arrière ou d'innovation radicale. Ce qu'il faut, c'est justement établir des continuités et des ruptures, mais qui s'enchaînent. Alors, sur le premier point, le fait que 4% des gens, quand on les sollicite directement avec une liste plus complète d'items, ils ont toute une liste sous les yeux, et on leur demande de pointer ce qui est la première valeur qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants, le fait qu'il y en ait seulement 4% qui disent la religion, ma foi religieuse, en numéro 1, ne signifie pas que tous ont mis en numéro 10 la foi religieuse. Ça veut dire qu'en fait, il y a une manière de relativiser la foi religieuse par rapport à d'autres choses encore plus importantes qu'on a à transmettre. Alors, ça, c'est une chose. Et il y a toujours un effet de biais dans la manière dont on demande aux gens de se prononcer sur des choix de ce type. Le fait, par contre, de continuer, même si c'est loin d'être 96% aujourd'hui, Et si le chiffre décline rapidement, il a décliné très brutalement, parce qu'effectivement, le taux des baptêmes dans un pays, disons, massivement catholique comme la France est resté relativement stable, alors que la pratique religieuse était effondrée, le chiffre est resté élevé. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la sacramentalisation tend à baisser et que notamment le baptême est de moins en moins donné petit. On atteint aujourd'hui, je crois, un chiffre de 55%, ce qui représente une chute assez considérable. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, la catéchisation des enfants, en gros, touche 35 à 45% des enfants selon les régions de France. Donc on est vraiment devant une baisse de la socialisation, mais qui laisse effectivement une place forte à ce qu'on pourrait appeler des rites initiatiques, ou des rites de passage, qui ne signifient pas pour autant que l'enfant qu'on baptise, parce que c'est l'occasion de l'accueillir dans la famille, de faire une fête, etc., va forcément être socialisé religieusement. Donc il y a des décalages, si vous voulez, selon ce que vous considérez. Si vous demandez aux gens de s'impliquer dans la façon dont ils, en disant « c'est une priorité pour moi que de transmettre la foi religieuse » et le fait de faire baptiser parce que les grands-mères y aspirent, parce que c'est l'occasion de se réunir autour de l'enfant, et puis parce que après tout, on fait partie de cette famille-là, mais que ça ne vous engage pas au-delà. Vous voyez le décalage. Quant au retour de l'affirmation religieuse, je laisse de côté le cas américain, c'est plus compliqué, mais si l'on prend le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il est plus facile et surtout plus courant de voir des individus ayant un certain statut public revendiquer une identité religieuse, je pense que d'abord c'est lié très largement à la montée générale des revendications d'identité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de patrimonialisation de l'identification religieuse qui renvoie à d'autres processus de mobilisation au fond de ce qui constitue un individu dans ses racines. Je suis de telle région, ma famille était une famille, je ne sais pas moi, d'agriculteurs ou de travailleurs du textile. Enfin, la façon dont on mobilise ces mémoires et des identités qui ne signifient pas forcément qu'on est pour autant personnellement et immédiatement impliqué, mais qu'on a besoin, au fond, de se doter de ses repères et de ses racines, est effectivement un phénomène sur lequel, d'ailleurs, on pourrait s'interroger, comme on pourrait s'interroger sur l'ampleur de la manière dont, collectivement et pas seulement individuellement, nous mobilisons toutes nos mémoires. Je dirais que plus on commémore, plus on affiche nos mémoires et moins il y en a de la mémoire. Les sociétés traditionnelles qui sont des sociétés de mémoire, n'ont en un sens pas besoin d'invoquer la mémoire, elles sont dedans. Ce qui caractérise nos sociétés, c'est la façon dont elles mobilisent cette référence à leurs racines au moment précis où elles vivent dans une instantanéité de plus en plus forte, dans un immédiat de plus en plus prégnant, où le changement s'impose de façon massive, où l'impératif du changement est une contrainte pour les individus et pour la société. À ce moment-là, il devient très important de se doter de cette continuité qui permet au fond de se persuader soi-même qu'on s'inscrit bien dans le temps. Et de ce point de vue-là, bien entendu, la religion est une ressource formidable, puisque par définition, elle est inscription dans une lignée. Et de ce point de vue, on peut comprendre que parmi les ressources mobilisées pour nous doter de ces petites mémoires qui nous réconcilient avec la temporalité, eh bien, la religion soit fortement mobilisée.
D'autres questions ? Une question ici. Une là. Allez-y.
Oui, je voulais poser simplement, en tant que chercheur français, est-ce que vous auriez des choses intéressantes à nous dire à propos de l'avenir d'une république laïque ? Et un petit peu dans le même sens, peut-être, si on prend la montée des intégrismes en Algérie ou au Maroc, ils n'ont pas le même impact.
Non, je veux dire que pour un sociologue des religions qui travaille sur le terrain français aujourd'hui, s'intéresser au devenir de la laïcité est aussi important que de s'intéresser aux phénomènes que j'ai évoqués autour de la religion. S'intéresser à notre laïcité, à notre modèle de laïcité et au type de nouvelles sollicitations auxquelles il est soumis dans une société où le problème principal est beaucoup moins celui, au fond, de l'impératif pour l'État de contenir dans des limites dont elle prétendait toujours sortir l'institution catholique romaine, autrement dit, une laïcité qui s'est construite dans la nécessité, au fond, d'assurer, de contenir le religieux dans sa sphère spécialisée, ce modèle qui garde sa pertinence dans nos institutions, dans notre droit, dans notre gestion de la vie publique, dans notre conception de la moralité publique, etc., cette réalité est précisément aujourd'hui confrontée à quelque chose de tout à fait nouveau et qui l'ébranle en profondeur, qui est précisément la multiplication et la diversification de ces revendications identitaires, la diversification et des affirmations croyantes également, car notre laïcité a été pensée quand les parlementaires qui ont fait la loi de 1905 employaient le mot « religion », le seul mot, la réalité qu'ils avaient en tête, bien sûr, c'était l'Église catholique romaine. Et je dirais que la construction de la laïcité a constitué, pour une part, à construire en confession les religions minoritaires. Le protestantisme, ce n'était pas très difficile, mais le judaïsme, ce que Napoléon a réussi, et pour créer, au fond, un judaïsme confessionnalisé, une sorte, si l'on peut dire, d'église juive, qui n'a son équivalent nulle part ailleurs, et qui est vraiment une construction dont, d'ailleurs, aujourd'hui, les autorités publiques rêvent pour l'islam. Quand on réclame, au fond, d'institutionnaliser l'islam, qu'est-ce que nous réclamons? C'est de faire entrer l'islam, dont nous savons que la présence massive dans notre société est désormais un fait incontournable, de faire rentrer l'islam dans les cadres de ce modèle confessionnel. Si bien qu'au fond, aujourd'hui, la laïcité à la française, elle est prise dans la nécessité, d'une part, d'élargir ce modèle confessionnel à d'autres religions avec un succès apparemment moindre que Napoléon, même si c'est le rêve de tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, et par ailleurs, de faire face à une prolifération de groupes croyants, d'où les spécificités tout à fait extraordinaires de notre débat sur les sectes. L'une des rares questions qui peut faire l'unanimité aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, c'est la conviction qu'il faut réussir à éradiquer tout ce qui pousse en dehors du modèle confessionnel. On est là devant des symptômes, des indications de la nécessité aujourd'hui pour la laïcité de se penser elle-même comme laïcité médiatrice entre des familles spirituelles de plus en plus diversifiées et pluralisées et de moins en moins comme dispositif de mise en étanchéité de la sphère de l'État et de la sphère de l'Église romaine.
Une dernière et rapide question.
Oui, merci de votre superbe exposé. Hérésie, croyez-vous qu'il y a encore de la place pour des hérésies, pour des schismes, puisque vous êtes parti dans la philosophie du bricolage? Est-ce que pour nous et pour nos enfants, est-ce que cette grande diversité de religions ou de bricolage est une bonne chose pour une paix civile, ou est-ce que ça risque de donner des conflits violents? C'est peut-être une prévision que je vous demande un peu trop éloignée, je m'en excuse.
Oui. Et comme vous savez, les sociologues ne font pas de prospective. Mais votre question sur l'hérésie, on peut penser que la problématique de l'hérésie est une problématique qui décroît en même temps que la problématique de l'orthodoxie. Les hérésies ne surgissent qu'en rapport à une orthodoxie capable de s'imposer comme telle. Pour savoir qu'une croyance est hérétique, il faut savoir où localiser la croyance vraie. Donc on peut effectivement penser qu'une réflexion en termes d'hérésie, sauf du point de vue tout à fait interne d'institutions qui postulent encore qu'elles exercent un magistère définitif et ultime sur toutes les croyances de leurs fidèles, la question de l'hérésie, effectivement, elle a autant de plomb dans l'aile que la capacité d'imposer les codes institutionnels du croire. Donc là, il n'y a pas de doute. Quant à savoir si cette espèce, au fond, d'extraordinaire dissémination des croyances qui favorise une sorte de relativisme pluraliste est un facteur d'affirmation de la tolérance, du respect de la croyance de l'autre, ou au contraire, éventuellement, par une sorte d'effet pervers, un facteur capable de susciter des chocs en retour, c'est-à-dire de nouvelles affirmations je dirais orthodoxes ou fondamentalistes ou intégristes de divers types, en en vue précisément de contrer ce mouvement, je crois que la scène religieuse nous en offre des exemples tous les jours. Et quand j'évoquais pour ma part la confrontation conflictuelle entre le modèle de la validation mutuelle qui procède au fond par échange d'expériences avec cette sorte de dispositif tolérant d'un côté et les cristallisations, ces espèces de coagulations de certitudes qui s'opèrent dans des petits groupes qui finalement paniquent littéralement devant ce que signifie cette vérité qui n'existe comme vérité qu'appropriée par des sujets, je crois que c'est effectivement... Alors là, c'est pas de la prospective, c'est de l'observation. On sait déjà que c'est le grand défi de notre scène religieuse contemporaine.
Je vous remercie.